sommes au port de Bray-sur-Seine, à 169 km à partir de Source-Seine, près de Dijon, où la Seine prend sa source. Et nous sommes donc donné rendez-vous à Bray. Alors ce n'est pas le même Bray que le Bray de Julien Gracq, enfin le Bray du film d'André Delvaux, d'après le roi Cophetua de Julien Gracq, qui s'appelle Rendez-vous à Bray. Il s'agissait de Bray-la-Forêt, il s'agit ici de Bray-sur-Seine, mais cet endroit dégage quand même, malgré tout, un fort parfum d'imaginaire. En arrivant à Bray, par exemple, la Seine paraît assez large, comme une sorte de fleuve russe. À l'intérieur de Bray, la Seine est beaucoup plus étroite, mais en arrivant, elle est comme une sorte de grand fleuve russe, mais un fleuve russe qui serait bordé de peupliers, ce qui est assez inhabituel en Russie, ce qui fait qu'on a l'impression d'être effectivement dans un territoire imaginaire. Après Bray, on voit, au-delà des clochers du village voisin, de l'autre côté du pont, on voit des collines, on voit également des champs de blé qui nous rappellent la mort de Peggy au champ de Villeroy dans la Marne. Nous sommes ici en Seine-et-Marne et les batailles de 14. C'est ici, à Bray-sur-Seine, que le maréchal Franchet d'Espéret, sur les indications de Joffre, rédigeait les plans de la bataille de la Marne. Et c'est ici également que Genevoix a placé une partie du début de l'extraordinaire ceux de 14. Mais ça n'est pas pour parler de la guerre de 14-18 que nous avons, Vincent et moi, emmené à Bray, mais pour évoquer une figure étrange et assez oubliée du monde des lettres, une destinée assez singulière, qui était celle d'Henri Guéon. Henri Guéon, qui a été à la fois un jeune enfant pieux, le fils d'un pharmacien, un médecin raté, l'ami d'André Gide, un homosexuel à tendance pédophile, un converti au catholicisme et qui... Pour finir, s'étant assez largement retiré du monde des lettres après avoir fondé la NRF, est mort à Paris à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Henri Guéon était né ici, à Bray-sur-Seine. Là, nous sommes au bord de la Seine. Il était né à 300 mètres à l'ouest, dans la Grand Rue, au numéro 37 de cette Grand Rue, où on voit encore la pharmacie familiale qui a dû changer de main depuis. Il s'appelait de son vrai nom Vengeon. Et son père, Monsieur Vengeon, le pharmacien, était un personnage sorti de Flaubert. Il était athée, républicain, conseiller municipal. Mais sa mère, la mère d'Henri Guéon, était une femme très pieuse qui venait de Rouen. Et parlant de la messe, Guéon écrira plus tard « C'était le luxe de chaque semaine ». L'enfance une fois passée, la foi de l'enfance laissée comme une peau morte, Guéon devait revenir à la foi plus tard, quand la Grande Guerre lui aurait montré ce qu'il advient du monde lorsqu'on l'abandonne aux soins des gens sérieux. À sa première communion, puis à sa confirmation, il lui semble, dit-il, recevoir les clés d'une maison qui n'appartiendrait qu'à lui, où abriter son âme nouvelle. Et puis, le temps passe, il grandit, et un jour à Pâques, il se refuse à accompagner sa mère à la messe en disant simplement « Je ne crois plus ». Dès lors, écrit-il, « Avais-je 15 ans, j'ai vécu sur la terre sans Dieu et sans le besoin de Dieu ». Il monte à Paris, comme on dit, en 1893, il a 18 ans, il s'enthousiasme pour le vers libre, écrit à Viollet-Griffin, commence d'écrire pour le Mercure de France, qui était celui de Valette et de Léoto. Mercure de France qui lui commande un article sur les nourritures terrestres, et c'est ainsi qu'il devient l'ami d'André Gide. Il se retrouve du même côté au moment de l'affaire Dreyfus, et Guéon, qui a commencé ses études de médecine, les interrompt pour suivre avec passion le procès de Dreyfus. Il bat les couloirs du palais de justice au moment du procès de Zola et en oublie même d'écrire des vers. Il publie quelques temps après, tout de même, au Mercure de France, La solitude de l'été, où l'on voit l'influence des poètes américains de cette époque, et notamment Whitman et Thoreau, avec lesquels il partage un grand amour de la nature. Je ne sais pas si c'était l'amour de la nature ou un amour d'une autre sorte qui l'emmène avec Gide dans le désert, au sud de Blida. Et là-bas, il n'y a pas de nourriture terrestre et les promesses de Gide ne sont pas tenues. L'ami de Guéon ajoute à son désarroi en courtisant fermement leur jeune guide. Et Guéon écrit « C'en est fait de notre amitié, elle ne pouvait durer, fondée qu'elle était sur les pires choses. » Il revient à Paris, il sait à présent où le portent ses goûts. On le décrit, Martin Dugard par exemple, le décrit en barbe bleue hilar, deux yeux qui flambent dans une face épanouie, une barbe carrée, sombre, courte et drue, des pommettes rubicondes, un crâne luisant. Et... au fond, il erre entre Bray, où il a racheté un cabinet de médecins, et Paris, et notamment sur le boulevard de Rochechouart, où il lève un garçon après l'autre dans sa voiture. Il a dans les lettres un nom de deuxième rang, que sa conversion d'ailleurs ensuite effacera à peu près complètement. Et on se souvient à peine de lui comme l'un des premiers fondateurs, avec Schlumberger et Gide, de la NRF. Vient la guerre. Et Guéon s'engage dans le service auxiliaire. Il est patriote et même assez cocardier, ce qui détonne dans le cercle assez différent et beaucoup plus antimilitariste de la NRF naissante. Fin août, il vit absolument déchiré, non loin de chez lui, des paysages de son enfance, la retraite de la Marne, le désordre, la destruction, le flot des réfugiés. Il apprend la mort de Peggy. Et c'est alors qu'il se lie avec un jeune officier de marine, revenu à la foi, dont l'influence fut décisive dans sa conversion. Dans une lettre du 2 avril 1915, le lieutenant de vaisseau Dupouet, qui commandait sur l'Isère une compagnie de fusiliers marins, cite Claudel, « Seigneur, délivrez-moi de moi-même », et il est tué le lendemain. Il est clair que Henri Guéon était tombé amoureux du lieutenant de vaisseau Dupouet. Peut-être à cause de cet amour interdit, au front, il est à l'unisson de cette patte humaine que travaillent la mort et la douleur, et aussi, dit-il, une étrange gaieté fouettée par le péril. Il écrit « Dieu est entré dans l'homme ancien, mais l'homme ancien est plein de sang et ne l'admet qu'en visiteur. » Et tout d'un coup, c'est la conversion. Il lit l'évangile de saint Matthieu sous les obus et il pleure. Il sent parmi les héros et les cadavres la présence du Rédempteur. Et alors qu'il se montrera assez prolixe et assez prosélyte ensuite, du mécanisme de cette conversion, de la phénoménologie de cette conversion elle-même, il ne dit à peu près rien. Rendu à la vie civile, il se rend insupportable à ses amis. Il écrit à Gide « Le Guéon que je fus et que tu regrettes, je l'abomine, c'est peu dire, je le vomis. Et à Rivière, tu cherches et j'ai trouvé. » Il écrit « Les jeux de l'enfer et du ciel » où l'on voit Gide se convertir dans le confessionnal du curé d'Ars, ce qui n'était délicat ni à l'égard de Gide, ni à l'égard du curé d'Ars, ni peut-être même à l'égard de Dieu. Au physique, il ressemble d'abord à une sorte de curé de campagne, à mi-chemin entre frère Tuck et Sancho Panza. Puis ensuite il maigrit, il tourne au chartreux, il écrit des pièces religieuses, des vies de saints. Et dans ces pièces, on peut entendre des accents qui annoncent l'Antigone d'Anouilh. Les vies de saints, et même la meilleure, même de Saint Jean Bosco, sont, je dois dire, gâtées par la littérature, le point d'exclamation fréquent, et je ne sais quoi d'artificiel qui tranche avec ce sentiment intérieur de la conversion, qu'il a bien dû ressentir, mais dont, étrangement, il n'a rien dit. Et puis Guéon s'éloigne. Il s'éloigne de ses anciens compagnons et meurt seul en 1944 dans une clinique de la rue Franklin, dans l'attente de la libération et de la victoire d'une résistance à laquelle il adhérait entièrement, n'ayant jamais été dupe, il l'a écrit, des bondieuseries maréchalistes. Copeau écrit au moment de sa mort « C'était un être très bon, très attaché au travail, très courageux, et maintenant qu'il n'est plus là, je sens que je l'aimais, et je m'en veux de l'avoir délaissé. » Et comme peu de temps avant sa mort, il était devenu tertiaire de l'ordre des prêcheurs, donc dominicain, adoptant en religion le prénom Pierre-Dominique de ce lieutenant de vaisseau Dupouet dont il avait été amoureux, on l'enterre au cimetière du Montparnasse, dans la concession dominicaine. Apprenant sa mort, Gide pleure silencieusement puis dit « Je ne l'ai pas abandonné, c'est lui qui m'a laissé ».